Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'être venu et je vais vous parler du sentiment amoureux. Je vais m'inspirer pour ça du livre que j'ai écrit, que je vous montre, qui s'appelle « Méandre de l'amour » et en sous-titre « Eros et Agapé » et qui est paru chez Dervy à Paris. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le sous-titre, si ce sont deux mots grecs, « Eros et Agapé ». Je vous expliquerai ce qu'ils veulent dire. Retenez en gros que Eros, c'est le désir, la passion, et agapé, c'est au contraire le don, plutôt la compassion, l'intérêt actif porté à l'autre. Voilà. Je suis parti de l'idée que aimer, c'est différent d'être amoureux. Alors vous allez me dire, mais pourtant, quand on est amoureux, on aime. Eh bien, c'est pas vrai. Quand on est amoureux, on est dans un certain état, un état de passivité. D'ailleurs, passivité renvoie à passion, et passion renvoie au latin pater pati, qui veut dire subir, éprouver, vous voyez. Et cet état n'est pas la même chose que désirer faire du bien à l'autre, s'intéresser à lui, etc. Vous voyez, c'est deux choses très très différentes. On peut opposer aussi, si on veut, le désir d'un côté et la volonté de l'autre. Alors, quelle est la différence entre le désir et la volonté? Par exemple, il fait beau dehors, j'ai envie d'aller me promener. Donc ça, c'est un désir. Mais je peux rester chez moi pour travailler, en vue de réussir, par exemple, un examen, ou pour tel ou tel objet, et à ce moment-là, j'ai la volonté. Donc la volonté, parfois, c'est le fait de dire non au désir, vous voyez, Donc, Eros est du côté du désir immédiat, et Agapé plutôt du côté de la volonté. Alors, j'ai appelé ça « méandre de l'amour » pour bien montrer que le sentiment amoureux est très complexe. Méandre, vous savez ce que c'est que les méandres? C'est les bras d'un fleuve. C'est un mot qui est masculin, on dit un méandre, les méandres de la Seine, etc., Donc, j'ai pris ce titre pour montrer que la chose est extrêmement compliquée, qu'on peut éprouver Eros et Agapé en même temps, vous voyez. On ne passe pas forcément automatiquement et systématiquement de l'un à l'autre. Je ne suis pas du tout un professeur de morale, je ne fais pas de catéchisme, je ne vais pas vous dire qu'il faut dépasser Eros pour aller vers Agapé. Bon, je vous montrerai les avantages et les inconvénients, entre guillemets, qu'il y a dans les deux pôles, les risques de l'un et les risques de l'autre, mais je pense que, dans une expérience personnelle vécue, et dans ce livre je fais part de ma propre expérience de l'amour, eh bien on peut éprouver à la fois la passion et aussi la compassion, être tantôt aller vers tel pôle, tantôt vers l'autre, vous voyez, Donc j'ai dressé un peu le bilan d'une expérience. Parce que traditionnellement, les auteurs opposent ces deux pôles, Eros et Agapé. Alors, il y a un théologien qui s'appelle Anders Nygren, qui a écrit en 1930 un livre qui s'appelle Eros et Agapé. Le sous-titre, c'est la notion chrétienne de l'amour et ses transformations. Et ensuite, plus près de nous, un livre, ou plusieurs livres, d'un auteur que vous trouvez facilement en poche. Cet auteur s'appelle Denis de Rougemont. Il a écrit plusieurs livres sur ce sujet, dont « L'amour et l'Occident », et puis « Les mythes de l'amour ». Alors, Denis de Rougemont, lui, fait de la morale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il défend le mariage chrétien. Alors, il montre les prestiges d'Eros, mais il dit que le mariage ne peut pas se fonder sur Eros, ce qui est peut-être vrai, mais finalement son analyse revient à invalider totalement Eros, le désir. Il s'appuie pour cela sur le mythe de Tristan et Iseut, vous en avez entendu parler, dont Wagner s'est inspiré justement pour en faire son opéra Tristan et Isolde, et contre la passion amoureuse, il se prononce, Denis de Rougemont, pour le mariage chrétien. Pour lui, la passion c'est quelque chose de païen, Mais moi, finalement, pendant longtemps, j'ai cru qu'il avait raison. Hein, pendant longtemps, quand j'étais étudiant, théoriquement, ça se tient très bien. Hein, le mariage ne peut pas se fonder sur la passion. Oui, d'accord. Hein, mais après, j'ai réfléchi et du fait de mon expérience personnelle, j'ai vu que c'était beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour certains théologiens chrétiens, eh bien, Dieu avait pour les hommes un manikos eros. C'est une expression grecque qui veut dire un amour fou. C'est exactement de cette expression que Breton a tiré le titre de son livre. André Breton, le surréaliste, l'amour fou, hein, manikos eros, dont les théologiens parlent même de eros à propos de l'amour de Dieu pour les hommes. Vous voyez, c'est compliqué. Et alors en grec moderne, aimer se dit tout simplement agapan. Hein. Bon, mon amour, c'est agapimou. Hein. Alors je dis agapi parce que le eta est passé à i en vertu de l'iotacisme, vous voyez. Et donc, je t'aime tout simplement se dit siagapo. Siagapo. Hein. Vous voyez par exemple l'amant d'Edith Piaf, Théo Sagapo. Sarapo, hein, bon, voilà, il avait pris ce nom, vous voyez, hein, ça veut dire je t'aime. Donc, si un, les théologiens parlent d'Eros en monde religieux, et si deux, en grec moderne, je t'aime, emploie le mot agapé, hein, agapi, eh bien, ça veut dire que c'est beau, les choses sont complexes, vous voyez, les choses ne sont pas simples. En plus, l'hébreu, lui, n'a qu'un mot pour dire aimer, c'est hava, hein. Donc, dans le monde hébraïque, la distinction entre Eros et Agapé n'a pas de pertinence. Hein. Alors, libre à ceux qui le veulent d'éprouver Eros, à d'autres d'éprouver Agapé, il y a place pour tout. Hein. Bien sûr, il y a deux dangers. Le danger d'Eros, je vous le montrerai, c'est l'oubli de l'autre. Hein. Et le danger d'Agapé, c'est l'oubli de soi, le sacrifice de soi. Vous voyez, ce sont deux dangers symétriques. Alors, première partie, dans mon livre à trois parties, première partie Eros, hein, deuxième partie, alors Eros ou l'amour de désir, deuxième partie Agapé ou l'amour de don, et troisième partie, la plus personnelle aussi, qui s'appelle du bon usage de l'amour. Et là, je retrouverai le titre que vous avez choisi pour ma conférence, comment aimer et se faire aimer. C'est dans la troisième partie qu'il y a des notions qui se rapprochent de ce que l'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Vous savez, dans les librairies, il y a plein de livres comme ça qui donnent des recettes hein, pour mieux aimer ou mieux être aimé, etc. Alors, Eros ou l'amour de désir. Bon, finalement, Eros, ce n'est pas l'amour de quelqu'un, c'est l'amour de l'amour. On cherche à être dans un certain état et on s'y trouve bien, vous voyez, on s'y trouve gratifié. On pourrait dire que Tristan, archétype justement d'Eros, n'aime pas Iseux, il aime aimer Iseux, ou bien il s'aime aimant Iseux, ce qui revient au même, si vous voulez, hein. Proust disait « on n'aime jamais personne quand on aime ». Il se plaçait sur le plan d'Eros, hein. Donc l'autre n'est rien, hein. On veut d'abord aimer, et la rencontre de l'autre, qui est ainsi valorisée par notre attente, va être l'occasion de projection. C'est-à-dire, nous projetons, c'est un terme psychologique ou psychanalytique, hein, la projection, nous projetons sur autrui un désir d'aimer dont notre cœur et notre corps sont gros, sont pleins, vous voyez, hein. Et ce que nous prenons pour la cause de notre amour n'en est en réalité que le prétexte ou l'occasion, c'est-à-dire l'occasion pour lui de se manifester, de se déployer, vous voyez. Donc, voyez par exemple ce que dit Augustin dans ses Confessions sur sa jeunesse à la ville de Carthage. Augustin, vous savez, avant d'être le fameux saint Augustin, c'était un jeune homme qui avait des mœurs, comme on dit, dissolues, hein, bon. Et il a fallu que sa mère, sainte Monique, prie pour sa conversion, pour qu'effectivement, il en vienne à se convertir, vous voyez. Alors, il nous dit, vous pouvez vous avancer, si vous voulez, il y a des places devant, hein, comme vous voulez. Si vous m'entendez bien, ça va. Quand il était à Carthage, jeune homme, voici ce qu'il écrit dans les Confessions, livre 3, chapitre 1. Je n'aimais pas encore et j'aimais aimer, je cherchais un objet à aimer aimant aimer. Vous voyez, c'est évident. nondum amabam et amare amabam, querebam quid amarem amans amare. Je cherchais un objet à aimer et aimant aimer. Donc c'est bien de l'amour qu'il s'agit. Hein. Et puis voyez beaucoup plus près de nous, à des siècles de distance, le roman de Boris Vian, L'écume des jours. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce roman, si certains l'ont lu. Vous savez que Colin, le héros, un adolescent, eh bien, se fait tout un cinéma, hein. Il est dans sa salle de bain, il se regarde de façon narcissique, et puis il se dit « je voudrais être amoureux », alors il conjugue « tu voudrais être amoureux, il voudrait être amoureux », etc. Il y a un désir, si vous voulez, préalable. Ensuite, il descend dans la rue, et Boris Vian écrit « tous les chemins mènent à Chloé hein. ». C'est-à-dire qu'il va rencontrer une jeune fille, et il va avoir pour cette jeune fille un coup de foudre. Mais c'est parce que, auparavant, comme le disait Boris Vian, il y a de l'amour dans l'air, si vous voulez, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Donc, quand on est dans cet état d'érotisation, il est évident qu'on va au-devant du coup de foudre. Vous connaissez, par exemple, la chanson de Chérubin dans l'opéra de Mozart, Les Noces de Figaro, hein. Mon cœur soupire, la nuit, le jour, qui peut me dire si c'est d'amour? Ça, c'est typiquement l'adolescence, hein. Et chez Beaumarchais, la pièce dont Mozart s'est inspiré, Beaumarchais lui fait dire, une fille, une femme, hein, que ses noms sont doux, qu'ils sont intéressants, vous voyez. Donc c'est ça, le climat d'érotisation, hein. Alors, le coup de foudre, bon. Le coup de foudre, c'est quoi? C'est reconnaître quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il est très fréquent, hein, mais il s'agit d'un coup de foudre unilatéral, si vous voulez, à sens unique, hein, parce que savoir si ce coup de foudre peut être partagé, si deux êtres peuvent se trouver exactement à un même lieu, dans un même état, dans une soif d'aimer, si vous voulez, est-ce que c'est probable? Alors il faudrait que les scientifiques, Jean-Pierre, nous disent, statistiquement, quelles sont les chances que le coup de foudre soit partagé? La probabilité sera sûrement faible. Hein. Donc, autant il y a des coups de foudre unilatéraux, ça c'est très fréquent, le coup de foudre unilatéral, autant le coup de foudre bilatéral est peu probable. D'ailleurs, dans Tristan et Iseut, le poète est obligé d'avoir recours à quelque chose de magique, c'est le filtre, PHI, hein, le filtre d'amour que boivent les deux futurs amants. Alors, ils s'unissent, mais parce que la servante avait préparé un filtre qui était destiné aux noces d'Iseut et du roi Marc, vous voyez, hein, le filtre. Et dans le cas de L'écume des jours, ben c'est un roman, hein, le romancier il invente à sa guise. Hein. Donc je ne sais pas, moi, ce qu'il peut en être d'un coup de foudre bilatéral, mais je suis bien sûr que le coup de foudre unilatéral s'explique très facilement. Hein. Alors ce qui est très séduisant dans Eros, c'est l'imagination, vous voyez, l'imagination. L'imagination a tous les prestiges qui manquent au monde réel, hein. L'imagination, c'est battre le cœur. Voyez la définition que donne Spinoza, un grand philosophe de l'amour, hein. Alors, est-ce qu'il l'a connu? Je ne sais pas. Vous savez, Spinoza avait une vie très casanière. Il polissait des verres de lunettes. C'était son métier. Il se trouvait en Hollande, hein, à Amsterdam. Donc, voilà. C'était un intellectuel. Est-ce qu'il a connu l'amour? Je n'en sais rien. En tout cas, il a donné peut-être de l'amour, en tant qu'Eros, la meilleure définition qu'il soit. Hein. Il dit, l'amour est une allégresse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Je vous le dis en latin, amor est laetitia concomitante idea causae externae. Hein. Donc, parce que l'éthique est écrite en latin, hein, voilà. Donc, une allégresse, laetitia, hein, ça veut dire que l'autre n'est simplement que le prétexte ou l'occasion à fantasme. Hein. Ce qui est l'essentiel, c'est le cinéma que nous nous faisons à propos de l'autre. Hein. L'amour Eros, du type Eros, c'est une sorte de grossesse nerveuse, si vous voulez. Voilà, hein. On est dupe de ses propres fantasmes. Et Stendhal, dans De l'amour, qui est un traité sur le sentiment amoureux, a décrit cela sous la forme de ce qu'il appelle la cristallisation. Alors, il prend l'exemple suivant. Dans une mine de sel à Salzbourg, hein, on met une branche que l'on vient d'arracher à un buisson. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, hein, on retire la branche, elle est toute entière couverte de petits cristaux, des cristaux de sel. Hein. Alors, ce que j'appelle cristallisation, dit Stendhal, c'est l'opération de l'esprit par laquelle nous parons autrui de qualité que, objectivement, il n'a pas. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'amour est aveugle, qu'on le représente sous la forme d'un petit ange, Cupidon, hein, avec un bandeau sur les yeux, hein, bon, et un arc et des flèches, vous voyez. Donc, si ce type d'amour est une soif, c'est une soif. Vous savez, quand on a soif, le propre de la soif, c'est de ne pas être difficile sur la nature qui nous est, du breuvage qui nous est proposé. Donc attention, dans Eros, à pas prendre une gourde, si vous voulez, hein, bon, comme partenaire. Hein. Donc, la soif, voilà, hein, c'est une soif d'aimer. Hein. En fait, nous ne voyons pas l'autre, nous l'imaginons tout auréolé de notre propre désir. Alors, comme petite pause littéraire, je vais vous lire un petit passage de Molière dans Le Misanthrope, hein, pour bien vous faire comprendre ce que j'appelle les euphémismes de la passion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un euphémisme ? Un euphémisme, c'est le fait d'embellir, de travestir une chose, hein, pour ne pas la dire directement. Par exemple, au lieu de dire « si je venais à mourir », je dis « s'il m'arrivait quelque chose ». Vous voyez, je voile, bon, c'est ça, l'euphémisme. Alors, les euphémismes de la passion, voici comment Lucrèce, enfin je dis Lucrèce, oui, Molière, c'est Lucrèce le premier qui les a soulignés pour s'en moquer. Et Molière le reprend dans Le Misanthrope, voici ce qu'il fait dire à Éliante, hein, « L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix, jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. » Ils comptent les défauts pour des perfections et savent y donner de favorables noms. Alors voilà le catalogue. La pâle est au jasmin en blancheur comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grasse est dans son port pleine de majesté. La malpropre sur soi de peu d'attraits chargée est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux, la naine un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne, la fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne, la trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Vous voyez ? Bon. Après tout, c'est peut-être charitable, hein. Joubert, un moraliste, disait « quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil », hein. Donc, c'est peut-être charitable. Mais ce passage de Molière où Éliante fait la leçon à Alceste, hein, le misanthrope Alceste, s'inspire de Lucrèce, comme je vous l'ai dit. Lucrèce se moque vraiment de cet aveuglement. Mais chez Molière, c'est beaucoup plus complexe, hein. Vous l'avez senti quand je l'ai lu, peut-être qu'après tout, il faut savoir s'illusionner. Hein. Alors, le paradoxe d'Eros aussi, s'il est aveugle, c'est qu'il postule même l'absence de son objet, car la présence de son objet ferait obstacle aux projections et à l'imaginaire, donc on préfère que l'autre soit absent plutôt qu'il soit présent. Par exemple, dans Phèdre de Racine, Hippolyte dit « présente, je vous fuis, absente, je vous trouve ». Il dit ça à Arici, la femme qu'il aime. Hein. Ça veut dire « quand vous êtes présente, je m'enfuis, quand vous êtes absente, eh bien, je suis mieux avec vous que quand vous êtes là ». On est mieux avec quelqu'un que quand il n'est pas là que quand il est là. Parce que ce qu'on appelle son aura, c'est-à-dire son prestige, augmente avec la distance. Bon, vous savez, moi, je m'occupe souvent des proverbes. On dit que c'est la sagesse des nations, mais je m'amuse à les renverser, parce que, finalement, alors, on dit, par exemple, loin des yeux, loin du cœur, renversons-le. On peut dire, loin des yeux, près du cœur, vous voyez ? Vous voyez ? Bon, on dit aussi, les absents ont toujours tort, et si on renversait, on pourrait dire, les absents ont toujours raison, vous voyez ? Donc, on renverse les choses, hein, et ça me semble intéressant. Quand j'étais professeur, j'avais un élève qui était souvent absent, alors je faisais ce cours-là, et puis un jour il est venu à la fin de mon cours, il m'a dit, mais c'est vous-même monsieur qui m'avez dit que les absents ont toujours raison, vous voyez, hein. Donc, et il était à la fois impertinent et pertinent. Il avait une grande pertinence, il était intelligent, hein. Il était souvent en retard, voilà. Donc, voilà. Alors, moi, je condamne pas du tout cette attitude. Hein. Après tout, qu'est-ce que vous préférez, un imaginaire qui embellit les choses ou un réel qui est décevant? Ce qui est sûr, c'est que dans Eros, il y a un idéalisme complet, une abstraction, au sens de abstraire, c'est-à-dire, on se détourne du réel, hein, on se détourne du réel. Mais c'est une partie de nous-mêmes, ça, hein. Il y a un très beau mot de Sacha Guitry que j'aime beaucoup. « Comme vous étiez jolie hier soir au téléphone. » Eh bien, c'est très beau, ça, hein. Mais on ne pourrait pas le dire avec la webcam ou sur Skype, vous voyez, hein. Donc, c'est destructeur de fantasmes, ces techniques modernes qui consistent à voir, hein, qui satisfont notre, ce qu'on appelle la pulsion scopique, de scopein en grec qui veut dire regarder, voir, hein. Bon. Méfions-nous de cette pulsion scopique, on peut tuer son rêve en le faisant toucher par les yeux, hein. Et moi je crois que certains peuvent dire, il m'est arrivé de le dire dans d'autres livres que celui-là, donc dans des livres consacrés à la gnose, hein, que dans nos vies, ce qui compte c'est l'attente des choses, et que obtenir les choses est souvent en retrait par rapport à notre attente, hein. Vous savez, il me semble souvent que la vraie fête, c'est la veille de la fête, vous voyez. Que le vrai dimanche, c'est le samedi soir. Hein. Vous voyez, un humoriste a dit que le meilleur moment en amour, c'est quand on monte l'escalier. Hein, quand on monte l'escalier. Et l'amour, disait Andy Warhol, est meilleur dans les rêves que dans les draps. Vous voyez, dans les rêves que dans les draps. Donc, après tout, pourquoi pas? Il m'est arrivé de dire qu'il faudrait changer nos cartes de vœux en janvier. Nous allons y être bientôt, hein. Et si on souhaitait aux gens de ne pas obtenir tout ce qu'ils attendent? Je vous souhaite de ne pas obtenir cette année tout ce que vous en attendez. Alors on imagine la tête du récipiendaire, hein, quelle tête il ferait. Mais après tout, bon, il y a quand même là une certaine justesse psychologique, vous voyez, qu'il ne faut pas mépriser, même si c'est de l'idéalisme, hein. Et qui cet idéalisme sous-tend Eros. Alors derrière Eros, il y a tout le platonisme. Bon, vous avez entendu parler de Platon, hein. Platon dévalorise le monde réel au bénéfice d'un monde idéal, le monde des idées ou le monde des archétypes. Donc pour Platon, ce que nous voyons ne sont que des fantômes, vous voyez, hein. Et ce ne c'est pas du réel, c'est l'allégorie de la caverne au livre 6 de la République de Platon, vous voyez. Et c'est de Platon que vient l'expression d'amour platonique. L'amour platonique, c'est pas l'amour pour une partenaire qui serait plate, hein, c'est pas ça, l'amour platonique. C'est l'amour qui vient de l'intuition de Platon, hein, l'amour platonique. C'est refuser de satisfaire l'amour, hein, pour l'éterniser. Par exemple, dans La Princesse de Clèves, Madame de Clèves, une fois devenue veuve, pourrait épouser Monsieur de Nemours. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas qu'un jour vienne où il cesse de l'aimer, vous voyez. Elle ne sait pas abandonner à lui pour ne pas être abandonnée par lui un jour, vous voyez. Voilà. Alors, elle dit évidemment qu'elle se sent coupable de la mort de son mari, Monsieur de Clèves, qui a entendu parler de l'amour de sa femme avec Monsieur de Nemours, mais ça, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que elle a refusé le fait de satisfaire l'amour pour l'éterniser. C'est aussi ce que Gide montre dans un roman qui s'appelle La Porte Étroite. Bon, vous l'avez peut-être pas lu, La Porte Étroite. Gide est un peu dans le purgatoire actuellement, hein. Mais dans La Porte Étroite, il y a l'héroïne, Alissa, refuse de l'amour qu'elle a pour le jeune homme, Jérôme, en lui disant, j'ai souvent réfléchi à ce qu'eût été notre vie l'un avec l'autre. Dès qu'il n'eût plus été parfait, je n'aurais plus pu supporter notre amour. Vous voyez? Donc, éterniser, par la non-satisfaction. Hein. Donc finalement, il y a dans Eros un refus du monde. Hein. Finalement, Eros cherche à mourir à ce monde au nom d'une exigence qui refuserait le monde. Et alors, ça, on peut le rapprocher des intuitions des grandes mystiques. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila disait « Je meurs de ne pas mourir ». Vous voyez ?« Je meurs de ne pas mourir hein. ». Il y a une sorte d'anorexie au monde. D'ailleurs, les mystiques sont souvent anorexiques. L'anorexie, c'est le fait de ne pas vouloir manger, si vous voulez. Hein. Bon, parce que les anorexiques ont soif d'autre chose. Hein. Bon, c'est pas comme on croit, parce que une jeune fille anorexique veut être svelte pour satisfaire au canon de la mode. Hein, c'est pas ça. Hein. En fait, ce sont souvent les jeunes filles les plus intelligentes. Moi, j'en ai vu dans ma carrière, les plus intelligentes et les plus lucides. Et elles refusent de manger pour éviter d'être, par exemple, comme leur mère, qui est une mère pondeuse, c'est-à-dire, élever des enfants, etc., l'anéantissement du spirituel dans le biologique. Et souvent, l'anorexie, c'est le refus de ce monde-ci, un monde trop décevant, matérialiste, consumériste, ou tout ce que vous voudrez. Donc, Eros a partie liée avec ça. Les grandes amoureuses sont souvent anorexiques. Hein. Donc, il me semble que l'érotisme n'a rien à voir avec la gastronomie, si vous voulez. Hein. C'est incompatible. Lisez là-dessus Moderato Cantabile et de Marguerite Duras, la scène du repas qu'il y a au milieu, où on voit que Anne des Barèdes, l'héroïne qui est amoureuse, refuse de manger. Elle refuse de manger, alors que autour d'elle, tous les gens se goinfrent, c'est la goinfrerie de la haute bourgeoisie, etc. Elle refuse de manger. La seule chose qu'elle fait, c'est de boire. Elle cherche l'ivresse dans le vin. Vous voyez, mais elle refuse les aliments. Alors, Eros, je dirais, cherche la sidération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la sidération? La vision de l'archétype, par exemple, l'archétype de la beauté. Hein. Quand on voit vraiment la beauté, c'est comme quand on est vraiment heureux et sidéré, on devrait mourir. Alors là aussi, vous allez me dire, mais c'est paradoxal. Hein. Mais non, parce qu'on sent bien que l'instant d'après, on ne sera pas à ce même niveau de sidération, vous voyez. Donc, Eros, c'est un peu comme le papillon qui se jette dans la chandelle ou la bougie, et il va s'y brûler les ailes, il va mourir, voilà. Hein. Mourir dans cette extase, vous voyez. Donc, c'est beau à mourir. C'est pour ça que Eros a partie liée avec Thanatos. Alors, Thanatos, c'est un mot grec qui veut dire la mort. Hein. Donc, Eros et Thanatos sont communs. Et il est dans la logique de Tristan et Iseut que les deux amants meurent. On n'imagine pas Iseut devenir Madame Tristan. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ils meurent au sommet de leur amour. Voilà. Hein. Donc, maintenant, hélas, dans la vie, après cette extase, on revient à la quotidienneté. Et si on a été sidéré par un beau visage, après le temps fait son œuvre et le visage n'est plus si beau qu'auparavant. Il y a des rides, etc. La beauté vieillit et se flétrit. C'est la loi du temps. Alors, qu'est-ce qui reste à l'homme? Il reste, une fois qu'il a vu l'étoile, si douce, c'est l'astre, l'étoile, il lui reste à la regretter et à la désirer. En latin, desiderare, qui a donné désir. Hein. Desiderare, c'est constater la perte de l'étoile, hein, de l'étoile qui nous a sidéré, la regretter et vouloir de nouveau la connaître. C'est ça. Et c'est un état transperçant, la sidération. Hein. Donc, on pourrait le. J'ai appelé dans un autre livre consacré au credo, les deux visages de Dieu. J'ai appelé ça la tentation du taborisme. Alors pourquoi? Parce que on nous dit que Jésus a été transfiguré sur le mont Tabor, THABOR, hein, sur le mont Tabor. Donc les disciples disent arrêtons-nous. Hein. Pierre dit dressons trois tentes, une pour toi, Jésus transfiguré, brillant comme le soleil, comme la neige, etc. Une autre pour Moïse et une autre pour Élie, qui sont aussi deux témoins de théophanie. Bon, alors. Pierre dit arrêtons-nous. Ça c'est la sidération, c'est le taborisme. Mais après, ils sont obligés de redescendre. Jésus redevient comme avant. Hein. Il y a une voix qui descend du ciel en disant celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hein. Et alors les disciples sont obligés de cheminer dans la vie avec le souvenir de cette voix et le souvenir de ce qu'ils ont vu. Et c'est le souvenir qui donne un avenir. Vous voyez? Donc, c'est ça, le désiré, sidération désirée.